Alors, la société capitaliste craque de partout. Toujours plus d'inégalités, les services publics utiles à la population privés de financement, des salaires et des allocations qui ne permettent pas de survivre, tandis que les capitalistes, et notamment les marchands de canons, accumulent les profits. Il y a aujourd'hui 145 milliardaires, alors qu'il n'y en avait que 39 en 2017. Mais pire encore, les bombardements sur l'Iran entamés le week-end dernier et l'embrasement du Moyen-Orient sont un pas de plus vers une troisième guerre mondiale. Alors tout cela est lié. C'est le résultat de la crise du capitalisme. Ici, comme en Iran et dans le reste du monde, nos vies sont finalement suspendues aux intérêts d'une poignée de milliardaires qui exploitent le monde du travail, pillent les fonds publics, qui s'affrontent par états interposés pour s'accaparer les ressources, les marchés, en mettant la planète à feu et à sang. À l'occasion des élections municipales, certains essaient de nous faire croire qu'on pourrait se faire un petit paradis local dans notre commune pendant que le monde s'écroule. D'autres, et parfois ce sont les mêmes, expliquent qu'il suffirait de mettre le bon bulletin de vote dans l'urne pour changer nos vies. Alors si on ne veut pas se faire balader par ces politiciens bonimenteurs, il faut réfléchir à une autre échelle que l'échelle locale et se battre pour une autre organisation de la société. Et en effet, comment raisonner localement quand les foyers de tension se multiplient ? Amérique latine, Moyen-Orient et même le Groenland. Trump montre les muscles. Il a fait un exemple avec le Venezuela en kidnappant son président Maduro et en affirmant que le pétrole du pays devait revenir aux entreprises américaines. Il a aussi fait valoir ses ambitions sur le Groenland et impose un blocus à Cuba. En bombardant l'Iran, il veut montrer qu'il a les moyens d'imposer un régime à sa botte. Demain, il s'en prendra peut-être à la Chine. Tout cela ne s'explique pas simplement par le tempérament du président des États-Unis. Au-delà de sa personnalité répugnante, il défend les intérêts des capitalistes américains. L'ambiance guerrière qui monte ne vient pas du tempérament de tel ou tel dirigeant. Elle vient du fonctionnement même de ce système capitaliste. La crise économique conduit inévitablement à l'aggravation de la guerre commerciale que se mènent les capitalistes. Et cela fait plus d'un siècle maintenant que ces capitalistes ont besoin d'aller chercher sans cesse de nouveaux débouchés au-delà de leurs frontières pour ne pas étouffer dans leur marché intérieur. Depuis que le capitalisme a atteint ce stade impérialiste, c'est-à-dire depuis que la concentration du capital a fait naître des groupes financiers et industriels qui ont eu besoin de trouver des marchés, des matières premières et des placements en dehors de leurs frontières nationales, les affrontements pour s'accaparer donc les marchés et les ressources au détriment des impérialismes concurrents, et bien ces affrontements ils sont quasiment permanents. Au Moyen-Orient, la France et l'Angleterre se sont partagés des zones d'influence en taillant dans la chair des peuples, en divisant pour mieux régner, avant que les États-Unis viennent prendre leur part et se servent de l'État d'Israël comme leur gendarme dans la région. Par conséquent, compter sur ces mêmes dirigeants pour faire la paix, c'est ne rien comprendre. Les États-Unis dominent le monde économiquement et militairement. Avec Trump, il n'y a plus de faux prétextes démocratiques pour justifier les opérations militaires ni la domination sur les ressources. Trump annonce la couleur sans phare. C'est mon pétrole, ce sont mes terres rares. Alors il y a de la part de nos dirigeants ici toute une propagande pour nous dire que l'Europe doit s'unir pour compter face aux USA. Rétablir le service militaire, faire une armée européenne, soutenir nos industries de défense, c'est-à-dire financer les fabricants d'engins de bord comme Dassault ou Thales. En réalité, les dirigeants de l'Union européenne sont incapables d'être solidaires. C'est une union de brigands obligés de s'unir face à plus gros qu'eux, mais prêts à se mettre un coup de poignard dans le dos à la moindre occasion. Et surtout, c'est une façon de nous faire croire qu'il faudrait qu'on se sente solidaires, nous les travailleurs, de nos dirigeants européens, qu'on devrait être pour le pillage du Groenland par la France ou par l'Europe plutôt que par les États-Unis, le pillage de l'Ukraine par l'Europe plutôt que par les États-Unis ou la Russie, Comme si les objectifs des uns et des autres n'étaient pas les mêmes, s'accaparer les marchés et les ressources sans aucune considération pour les peuples concernés. Alors il faut réfléchir à nos intérêts, ceux des travailleurs, de tous ceux qui n'exploitent personne et vivent de leur travail, pour ne pas être les jouets de la propagande nationaliste et guerrière qui prend de plus en plus de place. Dans les médias, dans les discours de nos dirigeants, et maintenant aussi dans les écoles, avec des classes défense mises en place depuis plusieurs années, hein, dans les lycées, des forums sur les métiers de la défense à Pôle emploi ou à l'université. Et d'ailleurs, tous les grands partis, hein, du Rassemblement national à la France insoumise, parlent sans arrêt des intérêts de la France, comme si la nationalité comptait plus que la classe sociale et comme si les exploités et les exploiteurs français avaient les mêmes intérêts. Dans une interview d'un officier publiée en février, là dans la presse, on apprend comment se préparent les futurs militaires à l'école du génie d'Angers et puis dans les casernes alentours. Creuser des fossés et des tranchées, poser des mines, modéliser un terrain inconnu avec l'intelligence artificielle, faire une carcasse de drone avec une imprimante 3D. Et puis avant-hier à Brest, Macron posait devant un sous-marin nucléaire, tout fier de dire qu'un seul de ces sous-marins peut causer autant de dégâts que toutes les bombes tombées en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et 1000 fois plus que les premières bombes nucléaires. Alors voilà l'avenir promis à la jeunesse et même à toute la société. Demain, nous serons peut-être dans la même situation que les habitants de Gaza, d'Ukraine ou d'Iran. Ça ne ressemble pas à l'aventure des affiches de recrutement de l'armée. Comme le disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Alors nos dirigeants préparent la guerre sur tous les plans. Ils soutiennent l'industrie de guerre, mais ils orientent aussi les services publics utiles à la population vers la guerre. L'an dernier, le ministère de la Santé a envoyé une note aux agences régionales de santé demandant aux hôpitaux de s'organiser pour être en mesure de pouvoir accueillir de nombreux blessés de guerre. Il faut s'attendre à ce que tout cela se renforce à une toute autre échelle, avec toute la mise au pas qui va avec. Car l'essentiel de la préparation à la guerre, elle est dans les têtes. Elle consiste à nous convaincre de nous sacrifier pour les intérêts des capitalistes en nous faisant croire que ce sont aussi les nôtres. On en a eu un aperçu avec la guerre en Ukraine, notamment en 2022. D'un seul coup, tout ce qui était russe était suspect, de la musique au sport, en passant par les spectacles. Il y avait le camp des démocrates, celui de Zelensky et de l'OTAN, et en face celui de la Russie de Poutine, mettant tous les Russes dans le même sac et passant sous silence les manœuvres de l'OTAN pour accaparer les richesses du sous-sol ukrainien, la dictature de Zelensky, un oligarque qui ne vaut pas mieux que Poutine. Alors que Ukrainiens et Russes vivaient entremêlés, chacun des dirigeants a réussi à creuser un fossé de sang et a obligé ses soldats à tirer sur des travailleurs qui leur ressemblent et qui ne voulaient pas la guerre. Là encore, depuis les frappes sur l'Iran, Macron nous explique qu'il faut qu'on défende les bases militaires françaises dans les pays du Golfe, qu'on se sente, nous, attaqués par l'Iran, avec les tentatives de représailles de quelques drones sur des bases militaires aux Émirats. Macron et les dirigeants français sont tous solidaires des bombardements américains et israéliens, des bombardements qui font des milliers de morts sur l'Iran et le Liban, et d'ailleurs, ils se préparent, hein, ces dirigeants français, à y participer activement. Cette propagande nationaliste et guerrière, elle alimente la montée des idées réactionnaires, des idées de division entre travailleurs, des idées qui sont déjà nourries par la crise économique et la démoralisation du monde ouvrier. Parmi les principales raisons de cette démoralisation, il y a la trahison des partis socialistes et communistes qui ont fait croire aux travailleurs qu'on pouvait changer les choses par les élections et qui, une fois au gouvernement, ont utilisé leur crédit pour attaquer le monde du travail. Ils ont ainsi ouvert un boulevard à l'extrême droite. Alors il y a eu ces jours-ci une campagne écœurante à l'occasion du décès de Quentin Derenque, ce militant identitaire royaliste qui était venu perturber une conférence de Rima Hassan à Lyon, a été tué dans une bagarre entre un groupe d'ultra-droite et des antifas. Depuis, on assiste à un déchaînement nauséabond. Le lynchage de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, et en même temps une intégration du Rassemblement national avec toute une campagne pour nous expliquer que l'extrême gauche serait bien plus dangereuse que l'extrême droite. Cette campagne infecte est aussi l'occasion d'intégrer l'extrême droite dans la petite bande des partis bien respectables auxquels la bourgeoisie fait confiance pour gérer ses affaires. Politiciens et médias rendent la soi-disant violence du discours de LFI responsable de la mort de ce jeune. Mais la violence de l'exploitation, la violence des accidents de travail qui tuent des travailleurs tous les jours, la violence de la police avec les jeunes des cités, ou celle qu'ils nous préparent avec l'augmentation des budgets militaires et qui enverront à l'abattoir des milliers de jeunes, tout cela ne les dérange pas. Pour eux, c'est l'ordre des choses. Leurs tirades contre la violence sont remplies d'hypocrisie. La campagne contre LFI, c'est l'occasion de tenter de se débarrasser d'un concurrent en cette période électorale. D'ailleurs, cela avait commencé en accusant d'antisémitisme tous ceux qui dénoncent le massacre des Palestiniens à Gaza. C'est aussi l'occasion de tenter de faire taire toute contestation. Une loi proposée par une députée macroniste vise à considérer officiellement comme antisémite toute critique de la politique de l'État d'Israël. Et Macron propose même de rendre inéligibles tous les contrevenants. C'est un pas de plus dans le même sens. Alors face à ce système qui pourrit sur pied, on ne peut pas se contenter de mesures pour tenter de l'améliorer. Il faut prendre le mal à la racine et renverser le pouvoir des capitalistes sur la société. Pour mettre fin à la barbarie générée par ce système capitaliste, il faudra une révolution. Il faudra retirer le pouvoir à cette poignée de milliardaires irresponsables. La classe ouvrière en a la force, elle est au cœur même de la production capitaliste. Sans elle, rien ne fonctionne, ni les transports, ni les usines, ni les banques, ni les hôpitaux, ni les magasins. Elle n'a aucun intérêt au maintien de ce système, ni aux divisions entre exploités, ni aux guerres. Il y a des intérêts communs entre les travailleurs d'Iran, d'Israël, de Chine, de Palestine, de Russie, de France, d'Ukraine, des États-Unis, alors qu'il n'y en a pas entre un ouvrier français et un grand patron français. Ils ont même des intérêts complètement opposés. Pour l'instant, la classe ouvrière ne montre pas sa force. Elle n'a pas conscience de la force collective qu'elle détient. Il faut des femmes et des hommes pour semer cette idée. Mais c'est aussi au cours des luttes qu'elle mènera, qu'elle en prendra conscience. Les inégalités et les injustices générées par ce système ne peuvent que conduire tôt ou tard à des révoltes. Ces derniers mois, à l'initiative de la jeunesse, on a pu voir des révoltes éclater à Madagascar, au Népal, au Maroc et plus récemment en Iran. En Iran, la terrible répression qui a fait des dizaines de milliers de morts n'a pas suffi à éteindre la contestation. Et cette répression, elle a même conduit parfois à relancer les grèves et les manifestations, en tout cas juste avant les bombardements. Ce courage et cette ténacité sont exemplaires. Dans ce mouvement, les ouvriers ont été partie prenante. Mais pour autant, la classe ouvrière n'a pas pris la tête de la mobilisation. Or, pour que cela débouche, et pour cela, il faut un parti qui le prépare, qui sème dans la classe ouvrière la conscience de sa force collective, qui concentre le capital des expériences des luttes passées, qui propose une politique au camp des travailleurs avec comme perspective le renversement du capitalisme pour mettre les travailleurs au pouvoir. Notre candidature est un pas dans cette prise de conscience du camp des travailleurs.